le magazine des Nations Unies.
Bienvenue à votre émission dont voici les principaux titres. Un appel pressant de la MONUSCO aux acteurs politiques congolais à faire preuve de retenue. C'est là en réaction aux troubles meurtriers qui ont entouré les manifestations du rassemblement en début de semaine. C'est la grande actualité de ce magazine dont vous suivrez les détails dans quelques instants. Le choléra encore et toujours, 6000 cas enregistrés dans l'ouest du pays selon l'UNICEF, la ville de Mbandaka et ses environs parmi les contrées touchées par l'épidémie. Vous suivrez également le point de la situation avec Jean-Pierre Elali qui était au chef-lieu de l'actuelle province de l'Équateur. Enfin, mercredi le 21 septembre, le monde a célébré la journée internationale de la paix sous le thème « Les objectifs de développement durable, composantes de la paix ». Nous irons à Dungu dans la province du Haut-Uele où de jeunes ont été sensibilisés justement à la culture de la paix. Et voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Des morts, des blessés, plus d'une centaine d'arrestations et de nombreux dégâts matériels. Tel est le bilan partiel des violences qui ont émaillé les manifestations du rassemblement le 19 septembre 2016. Les appels au calme sont venus de toutes parts, notamment des Nations Unies représentées par la MONUSCO. Honoré Misenga Kalala nous fait le point de la situation.
J'appelle les autorités congolaises à s'assurer que les forces de sécurité nationale respectent les libertés fondamentales et l'usage de la force non létale pour le contrôle des foules en réponse à ces manifestations. J'appelle également les leaders politiques concernés et leurs militants à rejeter tout acte qui pourrait exacerber la situation et accroître la tension. De New York, où il se trouve à la 71e Assemblée générale de l'ONU, le représentant spécial de Ban Ki-moon en RDC fait cette déclaration le soir même du premier jour des troubles, le lundi 19 septembre, une déclaration que Charles-Antoine Bambara, le porte-parole intérimaire de la MONUSCO, va relayer le lendemain à partir de Kinshasa.
Mamadou Sambou Sirikou, qui se trouve à l'heure actuelle à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies, regrette les pertes de vies humaines et condamne ces violences. Et la MONUSCO estime qu'il est de son ressort en tant que mission des Nations Unies en République démocratique du Congo d'appeler à une enquête sur ces manifestations pour faire la responsabilité des uns et des autres par rapport à ce qui s'est passé hier.
Et cette enquête, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme l'avait indépendante, crédible et transparente. José Maria Ranaz, directeur du Bureau conjoint.
Il faut conduire une enquête indépendante, crédible et transparente pour faire la justice et mettre en justice ceux qui sont responsables de la violence et sans retard. Il faut faire cette enquête pour restaurer la confiance et pour continuer les processus politiques et tout de suite. Nous sommes prêts à appuyer les efforts des autorités pour faire cette enquête.
L'autre voix qui s'est fait entendre dans la hiérarchie de la mission des Nations Unies au Congo, c'est celle de son directeur chargé des affaires politiques. Monsieur Rey Virgilio Torres insiste, lui, sur la nécessité de poursuivre les efforts pour que le dialogue en cours débouche sur un accord politique consensuel et inclusif.
Nous pensons que tout doit être mis en œuvre pour que le dialogue soit un succès. Il faut tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne.
Monsieur Torres précise cependant, dans la recherche de cette solution à la crise, l'avis de la MONUSCO n'est qu'un avis consultatif. Donc, en définitive, conclut-il dans ce message, l'opinion qui compte, c'est celle des parties prenantes au dialogue, composée de la majorité, de l'opposition et de la société civile.
Depuis quelques mois, le choléra a sévi dans la partie occidentale du pays, notamment dans 6 provinces de l'ouest du pays où, selon l'UNICEF, on enregistre 6000 cas, surtout le long du fleuve Congo. La province de l'Équateur est parmi les provinces touchées. Nous allons faire le point sur la situation de la ville de Mbandaka et ses environs. Et c'est avec vous, Jean-Pierre Elali Ikoko, parce que vous vous êtes rendu sur place. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Suzanne, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Disons d'emblée que l'épidémie de choléra est bel et bien présente dans les chevaliers de la province de l'Équateur. Nous avons visité les centres de traitement des choléra de Wangata. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Mbandaka, ces centres se trouvent en face de l'hôpital général des références de Wangata. Et selon les médecins traitants, ces centres enregistrent depuis le 15 mai dernier 720 cas et 5 décès. Nous-mêmes avons été témoins d'un fait. Une ambulance débarque à son bord deux malades, un enfant de 5 ans et un adulte. Tous deux dans un état critique. Ils sont venus de Wengisekli, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Mbandaka. Nous avons constaté aussi une importante mobilisation tant de l'UNICEF, de l'OMS, du gouvernement provincial et que des ONG partenaires comme ADRA ou OSFAM pour lutter efficacement contre l'épidémie de choléra.
Alors l'épidémie est là et comment se fait la prise en charge des malades?
Oui, tous les cas suspects sont conduits vers les unités de traitement qui, à leur tour, les dirigent vers le centre de traitement de la zone de santé de Wangata que nous avons visité. Le docteur Narcisse Semantete de l'ONG ADRA, l'un des médecins traitants, décrit ici pour nous le centre ainsi que le processus de prise en charge des malades.
Ce centre a trois parties en général. Il y a la zone nette, là où les personnels s'échangent, donc là où il y a la buanderie des personnels, les vestiaires des personnels, la pharmacie et la zone où on traite l'eau. L'autre zone, c'est la zone des malades, c'est là que nous prenons en charge les malades. Et la troisième zone, c'est la zone de gestion des déchets. Dans la zone de prise en charge des malades, il y a d'abord des triages. Les triages, c'est là où nous recevons les malades. Quand les malades arrivent, on prend ses coordonnées et on les consulte. Si c'est un cas à hospitaliser, il entre dans les pavillons. Si c'est un cas à observer, on l'observe sur place. Donc si c'est un cas qu'on observe et qu'on trouve que ce n'est pas un cas à hospitaliser, on les libère en les désinfectant, bien sûr.
Jean-Pierre Lally, la prise en charge, c'est bien, mais qu'en est-il de la prévention?
Oui, Suzanne, je parlais tout à l'heure de la mobilisation de tous. Oxfam, qui travaille sur le WASH et assainissement, a installé une cinquantaine de points d'eau potable dans la ville de ses environs. Ces points d'eau sont chlorés, c'est-à-dire traités avec du chlore. Nous avons visité le point d'eau installé dans la paroisse Notre-Dame et dans les quartiers Air Congo, c'est toujours dans la ville de Mbandaka. Nous avons interrogé un adolescent venu s'approvisionner en eau potable. Il a dit tous les avantages que procure l'eau chlorée et toutes les règles d'hygiène.
Il y a donc une lueur d'espoir.
Disons que tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le choléra dans cette partie du pays, je vais parler de l'UNICEF qui coordonne l'organisation de la riposte, de l'OMS, du gouvernement provincial et des ONG partenaires comme OSFAM pour l'assainissement ou ADRA pour la prise en charge. Tous donc conjuguent des efforts tant au niveau de la prise en charge que de la sensibilisation, c'est-à-dire de la prévention. Oui, le chef de bureau AI de l'UNICEF Équateur parle déjà de la stabilisation de la situation. Oui, l'espoir est permis, Suzanne.
Merci Jean-Pierre Lally.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Après son adoption en juillet dernier à Zongo dans la province du Congo central, l'avant-projet de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme en RDC a encore été au centre d'un atelier à Kinshasa, un atelier au cours duquel la Commission nationale des droits de l'homme, avec l'appui du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, a permis aux représentants des activistes des droits humains venus de toutes les provinces de s'approprier ce texte avant de le soumettre au Parlement. Nous revenons sur l'entretien que Jean-Désiré Kanyama avait eu avec le coordonnateur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en marge de cet atelier pour le compte du magazine des Nations Unies. Suivez.
Monsieur Julien Patakla, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
La CNDH vient d'organiser du 29 au 31 à Kinshasa un atelier de l'avant-projet de loi relatif à la protection des défenseurs des droits humains. Quel a été l'objet de cet atelier?
Cet atelier, comme son titre l'indique, était un atelier de validation et d'appropriation de l'avant-projet de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC. Il y a quelques semaines déjà, le BCNUDH avait déjà appuyé la commission dans l'élaboration de cet avant-projet de loi. C'était du 4 au 8 juillet 2016 à Zongo. Et cette activité avait connu la participation de quelques responsables d'ONG des droits de l'homme. Mais il était nécessaire d'élargir la participation, d'inviter des défenseurs des droits de l'homme de l'ensemble des provinces de la RDC pour qu'ils viennent s'approprier, prendre connaissance de ce texte et puissent faire des amendements, faire des propositions pour enrichir le texte et que le texte devienne vraiment leur texte. Donc c'est ce qui a été fait au cours de ces 3 jours d'atelier.
Et après l'atelier de Kinshasa, quelles sont les étapes à suivre ?
Dans la stratégie qui avait été adoptée lors de l'atelier de Zongo, la prochaine étape, c'est la sensibilisation des sénateurs, parce que le texte sera soumis d'abord au Sénat pour examen et adoption. La CNDH a réussi déjà à identifier un sénateur qui a bien voulu accepter d'endosser ce texte lors de la prochaine rentrée parlementaire. Et donc, il y aura un atelier courant du mois de septembre pour sensibiliser un certain nombre de sénateurs afin qu'ils puissent avoir les arguments, qu'ils disposent vraiment d'une bonne compréhension et des arguments nécessaires pour défendre le texte. Une fois que le texte sera adopté au Sénat, et nous l'espérons, la CNDH a prévu un autre atelier de sensibilisation des députés. Et les ONG et les défenseurs eux-mêmes sont invités à entreprendre un plaidoyer. D'abord, une restitution en leur sein pour que tous les défenseurs puissent comprendre le texte et se l'approprier. Et ensuite, faire un plaidoyer en direction du Parlement et soutenir le député qui a accepté d'endosser ce texte pour que le texte soit vraiment adopté par les 2 chambres du Parlement et puisse être promulgué.
Mais dans cette quête de protection et de défenseur des droits humains en RDC, quel rôle joue exactement le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ?
De par son mandat, le bureau est appelé, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, à apporter une expertise technique à la CNDH qui porte à bras le corps ce projet. Le bureau apporte également un appui financier parce que aussi bien l'atelier de Zongo que l'atelier qui vient de se terminer ici a été entièrement financé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et la MONUSCO bien entendu, puisque nous faisons partie de la MONUSCO. Donc c'est un appui qui est à la fois technique, qui est à la fois financier, mais qui est aussi logistique, puisque nous avons assuré le déplacement de tous les participants, surtout ceux qui sont venus de l'intérieur, et nous apportons également l'expertise du point de vue des normes et standards au niveau international. Nous enrichissons les débats à la lumière de ces expériences d'ici et d'ailleurs, les bonnes pratiques documentées dans d'autres pays et qui sont promues par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sont mises à la disposition des participants pour éclairer la discussion et leur permettre vraiment de faire des choix bien informés.
Et vous êtes confiant quant à l'aboutissement de ce processus ?
Oui, nous sommes confiants. C'est la raison pour laquelle nous continuons de soutenir cette initiative-là. Parce que vous savez, depuis 1998, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une déclaration pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et tous les États sont encouragés à protéger les personnes qui, parfois au risque de leur vie, défendent les droits de tout le monde, les droits de nous tous. Et donc le BCNUDH a foi que cette loi va aboutir et que les défenseurs des droits de l'homme en RDC vont connaître un meilleur destin, une meilleure protection dans la mise en œuvre, dans le déroulement de leurs activités et de leur engagement au profit des droits de l'homme.
Monsieur Julien Attakla, merci beaucoup.
Notre page des nouvelles en brève part de New York. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, exprime sa profonde préoccupation concernant les affrontements violents entre des manifestants et les forces de l'ordre à Kinshasa et dans plusieurs autres localités en République démocratique du Congo. Dans une déclaration, Ban Ki-moon condamne la violence qui a déjà provoqué mort d'hommes à Kinshasa. Il exhorte tous les dirigeants politiques concernés et leurs partisans à s'abstenir de tout acte de violence susceptible d'aggraver la situation. Il appelle les forces de sécurité nationale à la retenue face aux manifestations et les dirigeants politiques à résoudre leurs différends pacifiquement et par le dialogue, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Le 21 septembre dernier, c'était la journée internationale de la paix. À cette occasion, la directrice générale de l'UNESCO appelle toutes les nations du monde à préserver la paix et la construire au quotidien avec la participation de toutes et tous. Il faut vivre ensemble et œuvrer à la construction d'un avenir commun qui soit meilleur pour tous, conclut Madame Irina Bokova. Enfin, terminant à Arou, dans la province de l'Ituri, où le programme alimentaire mondial PAM a distribué 170 tonnes d'aide humanitaire aux réfugiés sud-soudanais enregistrés par le ACR dans ces territoires. Par ailleurs, le PAM a commencé le 19 septembre dernier la distribution de 40 tonnes d'aide humanitaire aux déplacés de Beni qui ont trouvé asile à Biakato dans le territoire de Mambasa.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous l'avons dit, le choléra se répand dans l'ouest de la RDC. L'Équateur et la Mongala font partie des provinces touchées par l'épidémie. Quelle est la situation épidémiologique dans ces deux provinces? Comment l'UNICEF et les ONG partenaires organisent-ils la riposte? Jean-Pierre Elali Ikoko a rencontré en Mbandaka Vincent Masumbuko, chef de bureau intérimaire à l'UNICEF Équateur. Ils font le point sur le choléra dans ces deux provinces dans cet entretien que je vous propose.
Vincent Masumbuko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
L'épidémie de choléra sévit dans 6 provinces de la partie occidentale de la RDC et selon l'UNICEF, on enregistrerait aujourd'hui 6000 cas dans cette partie du pays. Alors, comment se présente la situation épidémiologique à Mbandaka et ses environs aujourd'hui?
Je pense qu'on aurait fait mieux de parler de la situation épidémiologique dans les grands équateurs, parce que l'épidémie n'est pas seulement à Mbandaka et dans ses environs, mais plutôt dans deux provinces, notamment la province de l'Équateur et la province de la Mongala. Donc l'épidémie de choléra a commencé dans la province de la Mongala à partir de la semaine 8 et dans la province de l'Équateur, c'est à partir de la semaine 9. Actuellement, l'épidémie se présente de la manière suivante. Pour la province de l'Équateur, il est enregistré aujourd'hui 2317 cas, 78 décès de la semaine 9 à la semaine 36. Et près de 10 zones de santé sont concernées, dont la zone de santé de Mbandaka, Makanza, Lolanga Mapoko, Lilanga Bobangi, Bolenge, Wangata, Lukolela, Irebu, Bikoro et je pense Lutumbe. Là, nous sommes dans la province de l'Équateur et à la semaine 36, il a été rapporté 78 cas et 0 décès. Et on remarque une certaine prévalence importante dans certaines zones, notamment la zone de santé de Makanza, de Mbandaka, Wangata. Pour la province de la Mongala, il est enregistré jusqu'à la semaine 36, 1153 cas et 95 décès. Et les zones les plus affectées sont les zones de santé de Lisala, Bosso-Mondanda, Osonjo, Yamaluka, Bumba, Binga, Yamongili, Pimu, Bosso-Manzi, Lolo et Bongandanga, soit 12 zones de santé. Pour les grands équateurs, le total fait état de 3470 cas avec 173 décès. Maintenant, quand on regarde la cartographie de ces zones de santé qui sont affectées, on remarque qu'elles sont toutes situées le long du fleuve et donc on peut déduire que le fleuve Congo est un vecteur, la source de transport de la maladie car on constate qu'il y a des gens qui font la vaisselle dans le fleuve, d'autres qui boivent l'eau du fleuve, d'autres qui font le lavage des mains et même, je dirais, dans certains campements ou des îlots le long du fleuve Congo, il n'y a pas de latrine. Et donc, à ce moment-là, les gens défèquent même dans le fleuve Congo.
Vous avez parlé justement de 3000 cas, c'est beaucoup. Comment s'organise la réponse au niveau de l'UNICEF et ses partenaires dans la province de l'Équateur et dans celle de Mongala?
Parlant de l'organisation, je dois souligner d'abord que l'UNICEF ne fait pas la mise en œuvre de la réponse. L'UNICEF assure la coordination, apporte l'appui logistique en termes d'intra aux partenaires qui ont été sélectionnés par Pool Fund et qui ont reçu le financement de ces derniers pour la réponse. Il s'agit des Oxfam GB. Oxfam intervenant donc dans 9 zones de santé de l'Équateur et 8 zones de santé de la Mongala, il s'occupe de la prévention en mettant en place les points de chloration, la distribution des aquatables, particulièrement dans les campements et les îlots qui se trouvent le long du fleuve Congo, former aussi les chlorateurs. Il fait aussi la désinfection des bateaux qui accostent ou qui sont en transit à Mbandaka. Il fait aussi la distribution des kits d'hygiène dans les ménages affectés par les choléras, c'est-à-dire distribution des savons, des bidons, des aquatables ou des comprimés pour la purification de l'eau. Tout ça qui ont été fournis par l'UNICEF. Il construit aussi de latrines hygiéniques au niveau de cet essai. Cet essai, c'est le centre de traitement choléra. Mm-hmm. Et aussi au niveau de UTC, donc unité de traitement choléra au niveau des aires de santé. Il y a Caritas Allemagne qui est seulement dans la Mungala qui couvre 6 zones de santé. Mais lui aussi s'occupe de la prise en charge comme ADRA. Et il y a aussi ADES, mais qui est dans 2 zones de santé, Pimou et Makanza. ADRA, comme ceci dit, il s'occupe de la construction des CTC. Au départ, c'était le MSF Belgique qui a construit les CTC de Wangata. Et après, ADRA a continué avec les CTC de Makanza et un autre qui est dans la zone de santé de Maïndombe au Bandundu. Il est fait à partir de Mbandaka. En fait, UNICEF avait fourni à ADRA un lot de médicaments pour la prise en charge, des cartons de sérum Ranger Lactate, des gants, des compresses, des seringues, des aiguilles épicraniers, des SRO, c'est-à-dire solution de réhydratation orale que l'on utilise au niveau des CTC. Alors, pour Caritas Allemagne, comme je l'ai dit, il intervient dans 6 zones de santé de la Mongala. Lui aussi s'occupe comme ADRA de la prise en charge des cas, la sensibilisation par les RECO, les relais communautaires qui ont été formés, la surveillance épidémiologique pour la recherche active des cas dans les communautés. Il fait aussi l'enterrement sécurisé avec l'appui de volontaires de la Croix-Rouge et les hygiénistes des zones de santé. Donc, pour résumer, c'est l'UNICEF qui assure la coordination, c'est l'UNICEF qui donne les intrants et chaque mardi, nous faisons notre réunion de coordination humanitaire que nous présidons. Au courant de cette réunion de coordination humanitaire, nous faisons le point des interventions des uns et des autres. On identifie aussi les contraintes, les gaps et l'approche stratégique pour la réponse.
Et avoir cette organisation, cette mobilisation, est-ce qu'on peut dire que la lutte contre l'épidémie de choléra est en train de prendre des allures d'une réussite?
Allure d'une réussite, oui. C'est plutôt, je dirais, une stabilisation. Très souvent, quand on regarde l'évolution de la maladie, lorsqu'il y a la chute, on commence à négliger les gestes élémentaires pour contribuer à faire la prévention de la maladie. C'est vrai qu'il y a une stabilisation, mais cela ne doit pas nous empêcher de pouvoir continuer la sensibilisation et la réponse.
Lorsque vous parlez de la sensibilisation, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui nous suit et la population de la Mongala et de l'Équateur, particulièrement en ce qui concerne les mesures d'hygiène à prendre?
Oui, ce que je peux dire aux communautés, c'est que les choléras existent, les choléras est toujours là et nous devons renforcer les mesures de la réponse. Nous devons aussi pratiquer l'hygiène élémentaire, comme par exemple les simples gestes de lavage de mains, de façon correcte et surtout en des moments critiques.
Monsieur Vincent Masumbuko, je vous remercie.
Je l'ai annoncé dans le sommaire, le 21 septembre est consacré à la paix, des activités que la MONUSCO avait prévues pour célébrer cette journée, notamment à Kinshasa, ont été reportées à la suite des événements malheureux enregistrés dans la semaine. Néanmoins, dans la province du Haut-Uele, cette journée a été marquée par la clôture d'un atelier de sensibilisation des jeunes à la culture de la paix, un atelier organisé par l'ONG Forum des jeunes pour le développement de Dungu. Les détails avec Jacques Moukonkolé.
Cet atelier sur la culture de la paix a concerné plus de 11 000 élèves ainsi que des jeunes se trouvant en dehors du circuit scolaire, selon les coordonnateurs du Forum des jeunes pour le développement de Dungu. Pour Jean-Baptiste Kumbomomu, le FJDD a sensibilisé les jeunes en vue de lutter contre les troubles de l'ordre public et les actes de vandalisme.
Dungu, c'est un territoire qui est frontalier avec la République danoise et la RDA, là où actuellement il y a des guerres. C'est comme ça que nous les sensibilisons en termes préventifs. Ça peut dégénérer jusqu'à chez nous, que les jeunes ne puissent pas s'impliquer ni de loin ni de près dans ces affaires.
Cette sensibilisation doit être encouragée puisque Dongo est confronté à trois vecteurs d'insécurité, déclare John Akilimali de la section affaires civiles de la MONUSCO Dongo. Ces différents vecteurs ont un impact sur le comportement des jeunes. John Akilimali.
La présence des éleveurs Mbororo, la présence de la LRA, il y a aussi la présence de près de 14 000 réfugiés sud-soudanais. Ça a un impact sur le comportement des jeunes parce qu'il y a des jeunes qui se font enrôler dans des groupes armés, peuvent être intoxiqués pour déstabiliser les réfugiés.
Les organisateurs de cette activité et les chefs d'établissement scolaire de Dongo espèrent que les élèves se comporteront en ambassadeurs de la paix dans leur communauté. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Quid des rebelles sud-soudanais localisés près de Goma? Suivez la question ainsi que la réponse du porte-parole de la MONUSCO Charles Bambara, complété à partir de Goma par le chef d'état-major adjoint des opérations.
Moulego de l'agence Sanadounou, il y a un ultimatum qui a été lancé à la MONUSCO. C'est un ultimatum de 3 jours. La MONUSCO est censée délocaliser les rebelles sud-soudanais cantonnés à Munigi, proche de Goma. En maintenant ces rebelles proche de Goma, une zone secouée, n'est-ce pas un chargement de trop dans cette région?
En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Les rebelles sud-soudanais sont entrés en RDC. Et nous avons dit ici, lors des conférences de presse précédentes, c'est en accord avec le gouvernement de la RDC que la MONUSCO est intervenue pour leur prêter une assistance humanitaire, à la demande une fois de plus des autorités congolaises. Nous les avons ensuite extraits du parc de la Garamba parce que beaucoup étaient, et nous l'avons encore dit ici, dans un état de malnutrition ou de maladie qui pouvait porter atteinte à leur vie. Il fallait prendre soin d'eux au plan sanitaire et au plan nutritionnel. C'est ce que nous avons fait. C'est vrai que nous avons appris qu'il y a eu un bref sitting en fait devant le camp de Munigi. Mais je voudrais un peu écouter les collègues de Goma et notamment le colonel qui est assis à côté du porte-parole militaire.
Oui, bonjour à tout le monde. Je suis le colonel Pierre Huet. Je suis le chef d'état-major adjoint des opérations, des plans pour la force. En ce qui concerne la situation des Sudanais du Sud ici à Goma, nous avons extrait ce personnel-là de la jungle au nord du pays par la demande du gouvernement de la RDC. Donc, nous avons à faire assistance au gouvernement pour pouvoir le plus possible assister ce personnel-là qui était depuis plusieurs journées dans la jungle et qui était mal nourri, déshydraté et qui souffrait beaucoup. Et donc, nous avons apporté cette assistance-là de pouvoir sauver des vies. Donc, on a apporté assistance au gouvernement pour sur des bases humanitaires, mais aussi sur des bases de la protection des civils au sein du pays. Donc, ces personnes-là ont été extraits durant le dernier mois et ont été établis dans 2 bases ici au RDC, soit à Munugi et à Dungu. Présentement, on leur donne assistance côté nourriture, côté habillement, des soins médicaux. On a encore du personnel qui souffrait d'une manière critique et qui demande encore des besoins essentiels en médicaments et en soins médicaux pour pouvoir sauver cette personne-là.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Franck Mbouembi, médecin de formation et également spécialiste en santé publique. Je suis marié à Madame Kalonda Christine, père de 2 enfants, un garçon et une fille, une jolie fille. En rapport avec mon parcours professionnel, actuellement je travaille chez ADRA où je suis chef de projet choléra. En fait, quand je me réveille le matin, je prie comme tout chrétien parce que je suis chrétien et je m'apprête, je prends mon petit déjeuner et je vais au travail comme d'habitude. Quand j'arrive, il y a déjà des tâches qui sont bien reprises. Je suis chargé de l'exécution effective du projet choléra au niveau opérationnel, c'est-à-dire dans les 8 zones de santé réparties en 2 provinces, la province de l'Équateur et la province de Maïndombe. Et dans la province de l'Équateur, il y a 7 zones de santé où nous intervenons. Et dans la province de Maïndombe, il y a une zone de santé, donc la zone de santé de Yumbi. En rapport avec mon expérience professionnelle, j'ai en fait travaillé dans la province de l'Équateur comme médecin traitant, médecin chef de staff, médecin directeur médecin chef des zones intérimaires. J'ai été également médecin chef de district dans les districts sanitaires de la Chapa à l'époque. J'ai assumé également les fonctions de médecin inspecteur provincial intérimaire à l'époque où nous avions l'épidémie d'Ebola dans la province. Et voilà, d'une manière brève par rapport à mon cursus, en rapport avec les organisations internationales et les humanitaires, j'ai travaillé avec MSF comme médecin, l'équipe médicale d'intervention EMI pour le projet choléra dans la province de l'Équateur, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu. Et oui, mon parcours académique, je suis diplômé d'État à l'école au lycée Tuyakumpala dans la province du Kasaï Oriental, à Mbujimayi. Et après ça, je suis allé à l'université de Lubumbashi où j'ai fini à la faculté de médecine comme médecin généraliste. Et après, j'ai également fait un master à l'école de santé publique de Kinshasa. Et je suis donc détenteur d'un diplôme de spécialiste en santé publique. En rapport avec mes préférences, en fait, j'aime bien le sport, notamment le foot. Mon équipe fétiche, c'est Barcelone. La musique, oui, j'aime également la musique, les anciens succès et toute la bonne musique. Voilà. En rapport avec le manger, je suis vraiment fanatique des libokés, de Ngolo avec l'imposé, ceux-là qui connaissent mieux le Lingala, ce sont les gnasses de palmier qu'on met avec du poisson et on fait un liboké, je crois que le liboké tout le monde comprend, avec la chikwanga. C'est mon repas préféré. En rapport avec les perspectives d'avenir, en fait, j'aimerais travailler dans les agences au niveau des Nations Unies et à la longue créer également une agence d'aide au développement dans l'avenir. C'est ce que je suis en train de penser peut-être vers la fin de ma carrière quand je vais prendre ma retraite. J'aimerais vraiment avoir une agence d'aide au développement humanitaire. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Deux dates à noter dans vos agendas. 26 septembre, journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. 27 septembre, journée mondiale du tourisme. C'est la fin de ce magazine coordonné par Jean-Pierre Elali Ikoko, Honoré Missenga, Jacques Moukonkole, Jean-Désiré Kanyama était au reportage, Sylvain Matoudou était à la technique, moi, Suzanne Zobo-Audra, je voulais présenter. Merci à vous de l'avoir suivi.